peu Midam, évidemment c'est le moment de faire un petit bilan d'étape après 8 mois déjà au ministère de la Culture. En faveur de la musique, les actions ont été nombreuses, variées, et mon engagement, je veux le rappeler, est total.
C'est sur un nombre de points saillants. D'abord, et ça sera mon premier point, c'est que dans ce contexte budgétaire extrêmement dur, j'ai veillé à pouvoir doter le ministère et donc accompagner certains acteurs, certains professionnels, de réponses qui sont adaptées aux difficultés conjoncturelles. L'année 2012 est restée une année difficile pour le secteur de la musique. Le chiffre d'affaires de la musique enregistrée a connu sa 11e baisse consécutive concernant évidemment les ventes, mais le chiffre d'affaires des ventes numériques continue lui aussi de progresser, sans pour autant évidemment parvenir à compenser encore les pertes de la vente physique. 2012 a été aussi une année un petit peu en demi-teinte pour le spectacle vivant. Et les résultats, évidemment, qu'on a pu avoir de ci et de là masquent les difficultés de nombreuses très petites entreprises du domaine du spectacle vivant, alors qu'elles contribuent partout en France et sur tous les territoires, et évidemment avec les labels, avec les lieux, notamment les SMAC, au développement et à l'épanouissement de nouveaux talents. L'année 2012 et le tout début de l'année 2013 ont donc été encore ponctués par des difficultés d'un certain nombre d'acteurs, dont certains acteurs évidemment très emblématiques de la filière musicale. Donc je vous rappelle qu'il y a eu des actions immédiates face à des situations d'urgence. La liquidation judiciaire de discographes m'a donné l'occasion de prendre un décret qui a permis de débloquer une aide exceptionnelle pour soutenir un ensemble de maisons de disques qui contribue à la fois à la création originale, mais aussi à la diversité. On a versé 215 000 euros à une quinzaine d'entreprises, essentiellement des TPE, pour leur permettre de franchir un cap qui aurait pu sinon leur être fatal, et donc aussi préserver des emplois. Et j'ai aussi souhaité, face aux difficultés et à l'urgence que traversent, que connaissent certaines plateformes de musique en ligne françaises, qu'on puisse mettre en place un mécanisme de financement approprié avant la fin de l'année 2012 pour une enveloppe budgétaire de 260 000 euros. Cette intervention est opérée à travers le FCM, le Fonds pour la création musicale. Et donc, cela permet de soutenir aussi des acteurs qui sont des acteurs prometteurs. Alors, on sait aujourd'hui, il y a quand même des signes positifs. Le contexte de concurrence internationale n'empêche pas certains acteurs nationaux de se distinguer par des services innovants, par des capacités à lever des fonds substantiels et à drainer, à conquérir un public important. Donc bien sûr, on pense à Deezer qui est en train de devenir un champion français, on peut dire ça comme ça, à l'échelle mondiale, mais également de services qui proposent par une qualité, une innovation, une intelligence dans l'éditorialisation, des services tout à fait spécifiques, et je pense par exemple à Qobuz. Mais évidemment, il reste qu'on est dans une période où les relations commerciales entre les acteurs de la filière doivent encore être normalisées à l'ère du numérique. On a encore des structurations technologiques, une maturation à avoir aussi des comportements. Et puis surtout, il y a des distorsions fiscales importantes qui demeurent entre les différents acteurs du secteur. Et ces distorsions fiscales, vous le savez, elles concernent par exemple les taux de TVA. C'est évidemment la raison principale pour laquelle l'intervention de l'État pour soutenir les acteurs les plus fragiles et déterminantes afin d'éviter des phénomènes d'écrasement total du marché ou de concentration supplémentaire au profit de quelques acteurs globaux. Donc, les 13 engagements pris pour la musique en ligne vont faire l'objet prochainement d'un bilan concerté organisé par Jacques Toubon. Et j'ai prévu d'évoquer ceci avec lui d'ici le début du mois de mars. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, j'ai défendu dans le contexte budgétaire qu'on connaît les outils de soutien à la musique. D'abord, le crédit d'impôt pour l'édition phonographique, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2012. Et ce que je peux vous dire, c'est que rien n'était acquis et qu'il a fallu être pleinement mobilisé avec les parlementaires de la commission des commissions des affaires culturelles de l'Assemblée et du Sénat. Et nous avons obtenu, dans ce contexte très contraint que vous avez tous à l'esprit, la prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2015. Et même, non seulement sa prorogation, mais même son intensification et son amélioration en direction de la diversité de la filière et notamment en direction des PME. J'ai engagé aussi, afin qu'il puisse être engagé le plus rapidement possible, les discussions avec la Commission européenne dès que le nouveau dispositif a été adopté. Et ce mécanisme, il est aussi complémentaire, vous le savez, du fonds d'avance remboursable pour l'industrie musicale, qui est abondé par le ministère de la Culture et de la Communication et par la Caisse des dépôts et consignations, et qui est géré par l'IFSIC. Donc la Caisse des dépôts a, dans une nouvelle dotation en 2012, donné 10 millions d'euros. Et j'ai moi-même demandé au président de l'IFSIC de pouvoir bénéficier d'un bilan détaillé de l'activité et des effets, à la fois évidemment quantitatifs mais aussi qualitatifs, de ce fonds. Mais après cette année d'existence du fonds, on peut déjà relever que le fonds a octroyé 110 avances remboursables en faveur de 75 entreprises, pour un montant de 20,8 millions d'euros, venu en appui de plus de 55 millions d'euros d'investissement. Que conformément aussi à l'objectif de rebancarisation des PME et des PMI du secteur musical, qui est donc un objectif important de ce fonds d'avance remboursable, près de la moitié de ces avances ont été accompagnées par un emprunt bancaire. Et cet emprunt a pu bénéficier de la garantie de l'IFSIC. Donc là, on voit que ces mécanismes, là encore, sont très bénéfiques, ciblés et favorables, notamment à la diversité des entreprises, notamment les plus petites d'entre elles. Le fonds accompagne tous les acteurs de la filière, mais évidemment, aujourd'hui, 72% des interventions du fonds vont aux éditeurs et aux producteurs, qui sont donc les principaux bénéficiaires, pour 11 millions d'euros, et les montants se répartissent entre 10 000 euros et 1 500 000 euros. Ça permet donc de couvrir aussi bien les petits comme les grands, entre guillemets, labels indépendants. Il me semble aussi évidemment tout à fait crucial que l'IFSIC puisse bénéficier des nouvelles ressources issues de la Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement a la vocation à soutenir les PME et les TPE, et de tous les domaines, mais évidemment dans le secteur musical, on a un tissu particulièrement dense de PME et TPE. Et donc nous sommes mobilisés, et j'ai demandé au ministère du redressement productif et à la ministre chargée des petites et moyennes entreprises et du numérique, mais aussi au ministre de l'économie et des finances, que nous puissions travailler dans ce sens pour renforcer la capacité d'intervention du fonds au bénéfice des entreprises, des producteurs de musique et des plateformes de musique en ligne. Et le cas échéant, qu'on puisse aussi abonder un nouveau fonds d'avance qui sera à l'étude au bénéfice des commerces culturels. Parce que, on le sait, la question des disquaires ou des comptoirs multiculturels est une question absolument cruciale aujourd'hui. Et les événements récents concernant Virgin, bien sûr, viennent confirmer ces inquiétudes. Donc, nous travaillons à pouvoir nous doter d'une capacité de non seulement de réaction, mais d'anticipation pour soutenir disquaires et commerces multiculturels. Vous le savez aussi, depuis ma prise de fonction, je n'ai pas cessé de défendre le mécanisme de la copie privée. Et encore tout récemment, donc, nous avons pu faire adopter par la commission pour la copie privée le 14 décembre dernier un nouveau barème. Et donc, il y a eu des discussions qui ont été constructives, évidemment, et qui ont été, on va dire, dépassionnées entre les représentants des ayants droit, des consommateurs, et puis la FFT qui était présente aussi. Je sais très bien les différents fronts contentieux qui sont ouverts par les adversaires de la copie privée en France, mais aussi en Europe. Et c'est pour ça que je serai totalement mobilisée, comme je l'ai été, pour la défense et la pérennisation de ce mécanisme que je trouve extrêmement moderne et pertinent. Les nouveaux barèmes sont donc entrés en application et aujourd'hui, ils s'appliquent. Et c'est absolument déterminant pour le secteur musical. Enfin, le dernier point, c'est que, vous le savez aussi, nous avons engagé, il y a plusieurs mois maintenant, la réflexion sur l'acte de l'exception culturelle, avec la mission confiée à Pierre Lescure, qui va permettre de réfléchir à la redéfinition des instruments de l'exception culturelle à l'ère numérique. Tous les outils qui ont été mis en place dans les années 80 nécessitent d'être adaptés à l'ère du numérique. Et la question de la musique est absolument cruciale et essentielle, et c'est pourquoi au sein de la mission Lescure, j'ai demandé à Jean-Baptiste Bourdin, qui est d'ailleurs ici présent, de pouvoir tirer le bénéfice de la réflexion qui avait été celle du comité de préfiguration du CNM, et ainsi d'apporter au sein de la mission Lescure une attention toute particulière au secteur musical. La phase d'audition est maintenant achevée et donc on est passé dans une phase de travail d'élaboration des diagnostics et des propositions, et la mission Lescure rendra ses conclusions et ses propositions fin mars. En gros, on sait qu'il y aura une partie qui concernera le développement de l'offre légale, une autre partie qui concernera la lutte contre la contrefaçon et notamment la lutte contre les pratiques illégales et notamment la contrefaçon commerciale, puisque il faut absolument identifier les sites qui tirent un profit des atteintes qu'ils portent aux droits de propriété intellectuelle. Et enfin, la rémunération des créateurs, le financement de la création, alors que évidemment les modes de fonctionnement actuels de l'économie numérique entraînent un déplacement de valeur de l'amont vers l'aval du cycle et des contenus culturels, c'est-à-dire en fait des créations, des œuvres, des artistes et de ceux qui leur permettent de travailler vers les distributeurs de services. La question du partage de la valeur fait partie intégrante de cet axe de réflexion, qu'il s'agisse évidemment du partage au sein des différentes filières, entre les différentes filières, ou de l'inclusion des nouveaux acteurs dans les mécanismes de rémunération des créateurs et de financement de la création.